au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Au fil des siècles, il est resté des mots célèbres, des paroles historiques dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Qui n'a jamais utilisé une expression comme « après nous le déluge » ou « ce fut une séance marathon » ? Qui n'a lu dans la presse ou entendu dans les commentaires des expressions comme « le français moyen » ? La politique de la main tendue, ou que un tel a été limogé, ou encore quand le bâtiment va, tout va. La langue française s'enrichit donc d'expressions faisant référence à des événements historiques, mais souvent, la plupart d'entre nous en méconnaissent la source et ignorent l'origine de telles expressions. C'est tout le mérite de l'historien Jean-Claude Bologne d'avoir rédigé un dictionnaire commenté des allusions historiques, dictionnaire qui s'intitule Qui m'aime me suivent et qui est publié chez Larousse. Jean-Claude Bologne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à venir nous parler de ces allusions historiques. Qu'est-ce qu'une allusion historique et est-ce différent d'un mot célèbre resté dans l'histoire ?
Oui, le concept d'allusion a été, non pas défini, mais utilisé par Pierre Larousse dans le grand dictionnaire du 19e siècle. Si vous vous souvenez, derrière certains mots, il y avait une petite sous-rubrique, allusion littéraire, allusion historique, allusion mythologique, etc. L'allusion se distingue de la citation ou du mot historique, je dirais, pratiquement par l'absence de guillemets. Une citation se doit d'être exacte, un mot historique est une sorte de petite verrue dans la phrase. C'est un élément ajouté, indépendant de la structure syntaxique, tandis que l'allusion se modèle selon la pensée, selon la syntaxe, et le plus souvent, on n'a pas besoin de guillemets. Ce qui m'intéresse dans l'allusion, c'est celle qui, justement, n'a pas besoin d'être exacte. Lorsque vous dites du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent, c'est une citation, et vous avez la référence à Napoléon, enfin Bonaparte, 1798, etc. Mais si vous dites du haut de la tour Eiffel, 100 siècles, 100 ans, un siècle nous contemple, là ça devient une allusion parce que l'expression est malléable. Et c'est ça qui m'intéresse dans le phénomène de l'allusion.
Et en plus, elle est dans le langage courant, c'est-à-dire on l'emploie sans même savoir parfois qu'on emploie. On va en voir tout à l'heure ensemble.
Tout à fait. Et du coup, il n'y a aucune pédanterie dans l'allusion alors que la citation, c'est toujours un petit moment d'érudition. Mmh. On affiche son érudition face à un interlocuteur. L'allusion, c'est plutôt du domaine du clin d'œil. C'est beaucoup plus humoristique que la citation.
Alors, dans cet ouvrage, Dictionnaire commenté des allusions historiques, vous avez choisi, évidemment, un certain nombre de ces allusions. Comment avez-vous opéré cette sélection ? Quels ont été vos critères ?
Alors, dans le domaine de l'allusion, je dirais que tout peut devenir allusion. Donc, on a une matière énorme, il faut se limiter. La première limitation, premier critère que j'ai pris, et le plus drastique, c'est un critère d'emploi. Je n'ai retenu que des allusions pour lesquelles j'ai trouvé des exemples dans les 15 dernières années, mais essentiellement pour 90% dans les 10 dernières années. Je n'ai fait vraiment qu'une ou deux exceptions à une chanson de Brassens.
Dans la presse, vous avez vu ça dans les journaux
C'est essentiellement la presse, la littérature, Internet parfois, mais dans les exemples que je donne, il me faut des sources écrites et publiées. Donc c'est essentiellement la presse et la littérature. Et puis dans le cours de l'article, j'ai aussi relevé des choses, des exemples autour de moi. Mais toutes celles qui m'étaient choisies ont un exemple publié il y a moins de 15 ans et essentiellement moins de 10 ans. Donc c'est un dictionnaire d'allusions utilisé à l'époque contemporaine. Parfois, certaines allusions que je croyais totalement démodées ont été sauvées par un exemple récent, le baiser l'amourette, par exemple, j'étais persuadé que personne ne l'employait, et puis tout à coup j'entends à la radio le baiser l'amourette qui arrive. Et
ben, les hommes politiques, par exemple, l'utilisent beaucoup.
Ils le pratiquent beaucoup. je ne l'ai entendu qu'une seule fois, mais ça m'a suffi parce que c'est une allusion qui me plaisait. En revanche, il y en a d'autres que j'aurais eu envie de mettre et que j'ai éliminé pour ce critère-là. Par exemple, les Anglais ont débarqué. Dans ma jeunesse, ça se disait
ça
encore.
Ça se disait, mais ça ne se dit plus.
Et maintenant,
voilà,
ça ne se dit plus, donc j'ai écarté l'allusion. Le deuxième critère, c'est qu'il s'agisse d'un événement ou d'un personnage identifié, identifiable et datable. Effectivement, on peut avoir ce qu'on appelle des mots de l'histoire qui font référence à une réalité historique ancienne et qui ne sont pas précisément datables. On peut parler, d'un travail pharaonique. Ce n'est pas pour moi une allusion historique. C'est trop vague pour être une allusion historique. Donc, il faut qu'il y ait soit un personnage datable, soit un événement datable. Si je parle de la mayonnaise, par exemple, je fais allusion à la prise de Port-Mahon. C'est une légende. Là aussi, c'est un autre critère ou un non-critère. Je n'ai pas retenu uniquement ce qui était historiquement vrai. Là, je suis dans un phénomène linguistique, non pas dans un phénomène historique. Le fait qu'on attribue l'invention de la mayonnaise à la prise de Port-Mahon est sans doute historiquement faux, mais linguistiquement, c'est exact, puisque c'est une explication qui a circulé. Donc, un événement bien datable ou un personnage historique extrêmement précis.
En tout cas, vous dites que vous en avez écarté quelques-uns. Par exemple, vous avez écarté les allusions bibliques, puisqu'elles font l'objet d'un livre que vous avez publié, les allusions, ce qui s'appelle « Au septième ciel ».
Voilà, j'ai publié un livre d'allusions, un dictionnaire d'allusions littéraires, un dictionnaire d'allusions bibliques, un dictionnaire
scientifique,
d'allusions contenant des chiffres ou des nombres.
Voilà.
Et puis, il y a aussi d'autres choses qui sont possibles, les dictionnaires d'allusions mythologiques. Je me réserve peut-être un jour de
voilà,
de
un
faire.
Projet.
Je ne sais pas. Mais là, effectivement, la différence, la frontière entre la religion, la mythologie et l'histoire est relativement fragile. Le Christ est un personnage historique, mais ses paroles, pour moi, sont d'abord des allusions bibliques. Là, c'est un critère pratique, je dirais, pour ne pas encombrer les allusions historiques de toute une série d'allusions qui ont leur place dans d'autres dictionnaires, de même que la mythologie fait parfois référence à des événements historiques comme la prise de Troie, mais pour moi c'est autre chose aussi.
Jean-Claude Bologne, c'est un dictionnaire, vous le dites, donc on entre dans ce dictionnaire par l'ordre alphabétique, par des mots classés. Comment sont structurés chacun des articles, chacun des mots, chacune des allusions ?
Alors, je me suis rendu compte que lorsqu'on parle d'une allusion historique, il y a beaucoup de choses différentes qui entrent en jeu. Notamment, la date à laquelle se réfère l'allusion n'est pas nécessairement la même que la date où elle apparaît dans la langue, ni celle à laquelle elle apparaît dans l'histoire. Pour prendre un exemple, une histoire qui y pense, l'histoire de la jarretière du roi Édouard, c'est apparu 2 siècles après, et c'est probablement un événement apocryphe. Il y a des allusions qui sont attestées pratiquement le jour même, lorsqu'elles sont empruntées à un discours du général de Gaulle, dont on a des enregistrements publics. C'est assez facile de dater l'allusion, elle apparaît historiquement au même moment que sa référence. Mais même dans le passé, ça peut être possible. Aller à Canossa.
Oui, avec le pape.
Le pape Grégoire a écrit le surlendemain aux évêques d'Allemagne pour dire que l'empereur Henri IV était venu à Canossa pour le rencontrer. Donc il y a des moments où ça coïncide. Sinon, ça ne coïncide pas nécessairement. Donc il y a une structure très simple. D'abord, l'entrée se fait par un mot-clé. Le mot-clé n'est pas nécessairement le premier mot de l'allusion. Par exemple, je fais à la France don de ma personne, je l'ai classé à don, parce que c'est à cela qu'on ira spontanément chercher l'allusion. Ensuite, donc, l'allusion sous sa forme la plus courante, une définition, un exemple donc, pour montrer que l'allusion est d'emploi récent, la référence donc, au moment où elle a été prononcée. Là, en l'occurrence, je fais à la France, don de ma personne, le maréchal Philippe Pétain, 1940. La source, là, la source et la référence sont les mêmes, puisque le discours de Pétain a été publié immédiatement. Mais par exemple, pour Delenda Cartago, la source vient de Plutarque, donc 1er siècle après Jésus-Christ, alors qu'il fait référence à un événement du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a cette différence entre la référence et la source qui me semble importante, deux dates qui ne coïncident pas tout le temps. Et puis, un commentaire pour resituer l'allusion dans son contexte historique et pour resituer les différents emplois linguistiques.
Les variantes, oui, c'est ça.
Les variantes, les emplois linguistiques qui ne sont pas toujours stables. Il peut y avoir des évolutions dans l'emploi d'une allusion qui parfois peut contredire totalement le sens d'origine. Je pense par exemple au coup de Jarnac. On en fait un coup de traître. Aujourd'hui, c'est une traîtrise de faire un coup de Jarnac. Alors qu'à l'origine, c'est un coup tout à fait loyal, mais inattendu.
C'est la surprise.
C'est la surprise plus que la traîtrise.
Et je crois aussi que vous donnez une petite bibliographie, en tout cas des conseils de livres ou des indications.
Et je finis par les indications de mes sources. Et effectivement, il y a beaucoup d'approximations qui ont circulé sur les allusions historiques. Donc il est important de bien les resituer avec des sources précises. Parfois, je détruis des légendes ou je dis que ce n'est pas vraiment attesté, mais je préfère l'incertitude à une mauvaise source. Il y a notamment un exemple qui m'a fait beaucoup de peine, parce que c'est une allusion que j'aime beaucoup, qui est souvent utilisée et où la source s'est perdue, c'est « Travailler pour le roi de Prusse ». Tout le monde fait allusion à une chanson qui circulait, et alors on vous donne des dates très précises, de 1757, il a bien travaillé à « A pour le roi » de Prusse. Et puis personne ne donne les références à cette chanson. J'ai consulté tous les recueils de chansons du XVIIIe siècle que j'ai trouvés. Je n'ai pas réussi à trouver cette chanson-là. Eh bien, si les auteurs de dictionnaires du XIXe siècle avaient pris la précaution d'indiquer leurs sources, je pourrais dire aujourd'hui, voici le
Et oui, mais ça ne se faisait moins autrefois. On n'avait pas besoin de justifier sa source, en fait. Voilà. Oui, travail d'historien a changé.
C'est pour ça que je tiens vraiment, il faut prendre une loupe pour les lire, parce que les éditeurs n'aiment pas tellement.
C'est pas les références.
C'est très, très
oui.
Ardu, mais je tiens vraiment à ce que toutes les références précises y soient.
Alors évidemment, dans ces allusions, il y en a qui font référence clairement à un événement historique, enfin le soleil d'Austerlitz, ou chanter comme Néron pendant que Rome brûle, ou l'épée de Damoclès. Donc ça, on voit à peu près, on n'a pas trop de surprises quand on les lit. Il y en a d'autres, on se souvient les avoir apprises à l'école. Alors tout est perdu, Madame for l'honneur, Onisfoi qui malit pense, que vous avez cité tout à l'heure, ou du haut de ces pyramides, 40 siècles, vous comptez. Bon, ça, on voit, on situe, on a quand même un minimum. Mais il y en a d'autres extrêmement surprenantes, beaucoup plus abstraites. Et si vous nous écoutez encore dans quelques minutes, on va retrouver Jean-Claude Bologne qui va nous les expliquer.
Dans sa médiathèque, Canal Academy vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Academy.
On retrouve Jean-Claude Bologne avec lequel nous parlons des allusions historiques. Il est donc l'auteur du dictionnaire commenté des allusions historiques publié chez Larousse et intitulé « Qui m'aime me suivre ?». Alors, je le disais, Jean-Claude Bologne, il y a des expressions qui sont historiques, mais elles sont un peu abstraites. « Briller par son absence », par exemple.
« Briller par son absence » fait référence à une coutume romaine, déjà, et à une situation très précise, l'enterrement de Junie, la veuve de Crassus, et la sœur de Brutus, donc les deux assassins de César. Et comme dans toutes les funérailles romaines, les portraits des ancêtres sont exposés. Sauf que les deux meurtriers de César ne pouvaient pas être exposés sous Tibère à l'époque où Junie meurt. Et donc, tout le monde savait que Junie était apparenté à ces deux meurtriers. Et ces deux meurtriers ont brillé par leur absence. Alors l'expression apparaît de mémoire sur le Cetacite en latin, bien entendu, l'expression moderne est aussi une allusion littéraire puisque c'est d'une tragédie de Chénier le Cadet que l'expression a été reprise.
Est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux que ces expressions durent pendant des siècles, qu'on les réutilise dans notre langue couramment, même sans en savoir l'origine? Moi, je trouve ça absolument merveilleux.
Oui, c'est ça qui m'intéresse. Et moins elle semble faire référence à l'histoire, plus elle m'intéresse. L'arbitre des élégances, tout le monde l'emploie sans songer que c'était Pétrone et que c'était à la cour de Néron que Pétrone était l'arbitre des élégances.
Absolument. Alors, il y en a une, par exemple, qu'on utilise très couramment, surtout quand on part en week-end. Restaurer une bicoque, comment est-ce historique ?
Alors, c'est historique, là aussi, d'authenticité douteuse, mais Bicocca est une petite ville, un petit village dans la banlieue de Milan, qui était, au contraire, bien défendu. Et c'est une défaite historique lors des guerres d'Italie de François Ier, donc en 1522. La tradition qui circule, et qui circule entièrement, mais c'est une tradition peut-être plus qu'une vérité historique, veut qu'on se soit moqué de la défense de Bicocque en disant ce n'est qu'une bicoque, on va la prendre facilement, et pas de chance, elle a bien résisté, et donc l'expression serait restée, d'abord d'ailleurs pour une ville, un bastion, et puis pour une masure.
Alors, il y a une autre expression qui a l'air comme ça extrêmement courante, faire le mariole.
Alors, faire le mariole, là aussi, c'est une... Là, dont on est sûr que l'authenticité est plus que douteuse, mais qui est amusante. A priori, ça doit faire partie de la famille de Marie, marionnette, mariole, c'est la petite poupée, mais... Il a existé un personnage qui s'appelait Mariole, Gay Mariole, pour être précis, qui était un grenadier de Napoléon, et qui, selon la tradition, c'est un géant, et qui lui est historiquement attesté. Et selon la tradition, lorsque Napoléon passait ses soldats en revue, il aurait oublié son fusil. Et comme c'est une force de la nature, il aurait saisi une petite pièce de canon qu'il aurait mise sur son épaule en guise de fusil, et Napoléon aurait dit qu'il faisait le mariole. Là encore, ce qui m'amuse, c'est qu'une expression courante, dont on ne retrouve plus l'origine, soit tout à coup datée, même de façon fausse. Ça veut dire qu'on tient à ancrer une expression dans l'histoire. Et c'est ça qui est amusant.
Alors moi, j'aime beaucoup que vous parliez d'amusement, parce que si vous vous êtes amusé à écrire ces allusions, nous, on s'amuse beaucoup à les lire, c'est vrai. Alors, revenons à l'allusion qui donne le titre de votre livre, donc de votre dictionnaire. Qui même me suivent, même qu'on en parle de celle-là.
Voilà, tout à fait, et celle-là est tout à fait historique, elle est bien attestée dans les chroniques du temps. Elle fait allusion au début du règne de Philippe VI de Valois, qui était un roi relativement contesté. Il venait après les fameux rois maudits dont Druon a dressé l'histoire romanesque. Il était relativement contesté. Peu formé au gouvernement, et dès le premier conseil royal, il y a une révolte dans les Flandres, et le comte de Flandre demande l'aide du roi. Et le roi flotte un moment jusqu'à ce que ses conseillers lui fassent comprendre que ce dont on a besoin, c'est d'un roi fort. Même s'il prend une mauvaise décision, ce dont on a besoin, c'est qu'il montre sa capacité à entraîner les autres. Et il a cette formule « qui même me suive », qui m'aimera, s'il me suivra.
Voilà, qui n'est pas tout à fait vraiment, on l'a un peu changé, qui m'aime, me suive, mais quand on la lit dans le texte.
Qui m'aimera, s'il me suivra, on l'a traduit en français moderne, je dirais.
Voilà, on l'a adapté un petit peu. Alors, il y a aussi un juron jarnicoton. On n'entend pas beaucoup tout de même celui-là. Vous l'avez trouvé, je ne sais pas dans quel document de moins de 10 ans. Enfin, j'entends pas tous les jours les gens nous dire jarnicoton.
Je pense que c'est une des exceptions que j'ai faites avec avec une chanson de Georges Brassens, la ronde des jurons de Georges Brassens, bien entendu. Et je l'ai prise parce qu'il y a toute une série d'allusions, et là, qui sont encore bien employées, au père coton, avoir du coton dans les oreilles, notamment. Sauf que jarnicoton est la seule historique. Donc je l'ai mise en gondole, si je puis dire, en tête d'article. Le père Coton était le confesseur d'Henri IV qui avait la mauvaise habitude de jurer comme un païen, et notamment en jurant « j'arnie Dieu, je renie Dieu ». Et le père Coton avait eu l'idée de lui dire « jurer autrement », et Henri IV avait dit « je renie Coton, je jarnie Coton ». Et là, cela est à peu près historique, parce qu'elle commence à circuler juste après la mort d'Henri IV. En revanche, avoir du coton dans les oreilles est probablement apocryphe, mais fait allusion aussi à ce père Coton qui avait des sermons tellement long et qui ennuyait tellement Henri IV que lorsqu'il sortait de ses entretiens avec le père Coton, il avait du coton dans les oreilles.
Bon, en plus, elles sont vraiment très amusantes. Il y a une expression qu'on utilise alors vraiment tous les jours, nous tous, faire la queue. En quoi est-ce historique ?
C'est une de celles que j'ai préférées, parce que moi non plus, je ne la connaissais pas. Et j'ai découvert tout à coup, dans un livre de 1796, cette explication que on a toujours pris la queue lorsqu'on se met à la queue dans une file. Le terme de queue comme synonyme de file, de bout de la file, a toujours été utilisé. Donc on prend la queue, on se met au bout de la queue, mais pourquoi est-ce que la totalité de la file s'appelle la queue ? Et là, dans un petit livre de 1796, on nous explique que lorsque Robespierre a été renversé et guillotiné, il aurait dit au bourreau, tu peux bien me couper la tête, mais tu ne me couperas pas la queue, sous-entendu à la fois la queue de la perruque, mais la queue d'un parti, c'est-à-dire tous ses partisans. Et lorsque Robespierre est mort et qu'il manquait de pain à Paris, toutes les files qui se formaient devant une boulangerie ont été prises comme des complots contre le gouvernement thermidorien. Et on a parlé de la queue de Robespierre qui se faisait à la queue des boulangeries. Et l'expression était typiquement parisienne, puisque Stendhal, lorsqu'il arrive à Paris, écrit à sa sœur qu'il est obligé de faire la queue devant le théâtre et lui explique en disant que c'est une expression qui est typiquement parisienne. Et pendant longtemps, on a continué à parler de la queue de Robespierre, c'est une expression qui aujourd'hui, elle est totalement sortie de l'usage, pour parler des partisans d'un homme politique. Donc, faire la queue, c'est raccroché à cet épisode qui est, je pense, un petit peu apocryphe, mais pas tellement, de 96, il est mort en 93.
Enfin, on aura une pensée pour Robespierre chaque fois qu'on fera la queue devant notre boulangerie. Alors, j'ai envie de vous faire parler maintenant d'allusions qui sont attachées à un personnage tout à fait intéressant ici pour nous à Canal Académie, puisqu'il fut le fondateur de l'Académie française, je veux dire Richelieu. Alors, j'ai trouvé trois allusions historiques dans votre livre. La journée des dupes, un état dans l'état et l'éminence grise. Tout ça a un rapport avec Richelieu qui alimente donc largement les allusions historiques. Alors, qu'est-ce que c'est la journée des dupes ? Rappelez-nous rapidement.
La journée des dupes, c'est cette journée du 10 ou 11 novembre 1630. Les sources ne concordent pas tout à fait, mais c'est une journée de novembre 1630 où Marie de Médicis, mère de Louis XIII, a essayé de faire renvoyer Richelieu. Elle a convoqué donc Richelieu dans un entretien qu'il avait avec son fils, et Louis XIII a eu l'air de prendre parti pour Marie de Médicis. Mais dans la soirée, donc, le roi a changé d'avis et il a confirmé Richelieu dans ses fonctions, et du coup, ceux qui s'étaient détachés de lui dans la journée ont été dupes de cette journée. Alors, l'expression « journée des dupes » a été d'ailleurs inventée par un académicien, Bautru, de la première académie, qui est un des beaux esprits de l'époque, qu'on a tout à fait oublié aujourd'hui. Et c'est lui qui aurait parlé, parce que je n'ai jamais retrouvé l'expression dans ses œuvres, mais tout le monde dit que c'est lui qui aurait lancé cette expression du journée, de la journée des dupes.
Alors, un État dans l'État, ça, on comprend très bien ce que ça veut dire. Mais pourquoi s'attacher à Richelieu ?
C'est attaché à Richelieu et c'est attaché à un changement de la notion d'État et, du vocabulaire de l'État à l'époque de Richelieu. Ça fait allusion à la prise de La Rochelle, donc depuis l'assemblée de La Rochelle en 1621 et avant la prise de La Rochelle en 1626, il y a eu quelques années de conflits ouverts entre l'État, le nouvel État de Louis XIII et le contre-pouvoir protestant qui s'était proclamé pratiquement indépendant à La Rochelle. Et Richelieu a attiré l'attention très fermement du roi sur ce problème, parlant d'un État dans l'État.
Alors, inadmissible, évidemment.
Tout à fait inadmissible. La formule apparaît dans les mémoires de Richelieu. Ils parlent d'un État, ils sont en train de former un corps d'État dans le vôtre. Donc, elle peut être
attestée.
On peut considérer qu'elle est attestée. C'est intéressant parce que lorsqu'on parle de corps d'État, ça fait allusion à l'ancienne signification du mot « État » que l'on retrouve dans « tiers État », c'est-à-dire un corps social. Et la notion d'État-nation est une notion contemporaine de Richelieu, pour laquelle Richelieu a largement œuvré. Et lorsqu'on dit « un État dans l'État », ce sont les deux sens du mot « État » qui sont, qui sont attestés. Un État, un corps d'État dans un État-nation.
Oui, absolument. Il y a donc plusieurs manières de le comprendre. Alors, Richelieu, toujours lui, avait une éminence grise. Mais pourquoi était-elle grise ? J'aimerais bien savoir.
Voilà le père Joseph qui était capucin, donc dont la robe était grise, alors que la robe du cardinal de Richelieu était pourpre. Le père Joseph, qui était le conseiller le plus fidèle de Richelieu, au moins depuis 1616 et durant tout le temps où Richelieu était ministre d'État, le père Joseph a été appelé l'éminence grise de Richelieu. Je n'ai pas trouvé d'attestation antérieure au dictionnaire de Trévoux, donc du XVIIIe siècle, mais à l'époque du dictionnaire de Trévoux, l'expression circulait déjà largement.
Il y a un autre personnage qu'on va rapidement évoquer tout de même. Il est moins connu, mais il est tout de même de l'Académie française. C'est Salvandi. Et il aurait prononcé l'expression « nous dansons sur un volcan ».
Oui.
Vous confirmez ?
Je confirme, mais là, ce sont les mémoires de Salvandi qui nous expliquent le contexte dans lequel cette phrase a été prononcée. Salvandi est aussi un des fondateurs de la Société des gens de lettres.
Donc vous êtes vous-même un éminent pilier.
Général. Voilà. Donc voilà, nos deux institutions se sont rencontrées ce jour-là. Ça fait allusion donc à un grand bal donné par le duc d'Orléans au Palais Royal en 1830, juste avant la Révolution. Et c'est à ce moment-là que le comte de Salvandi aurait prononcé cette phrase tout à fait prémonitoire.
Absolument. Jean-Claude Bologne, on vous écouterait sans fin sur ces allusions historiques. Malheureusement, on va quand même mettre une fin à notre émission. Je voudrais rappeler les références de votre livre, donc « Qui m'aime me suivent », le dictionnaire commenté des allusions historiques par Jean-Claude Bologne. C'est paru chez Larousse dans la collection « Le souffle des mots », une collection qui comporte quatre ouvrages, quatre titres de Jean-Claude Bologne, c'est dire s'il est un spécialiste de ces allusions. Vous retrouverez aussi Jean-Claude Bologne dans une autre émission sur Canal Académie relative à son ouvrage « Histoire de la conquête » amoureuse, un sujet qui fait également l'objet d'une fiche pédagogique destinée à ceux et celles qui veulent améliorer leur approche de la langue française dans notre espace apprendre. Merci beaucoup, merci Jean-Claude Bologne.
Merci à vous.